Le gouvernement présentait hier sa stratégie nationale bas carbone, à savoir la feuille de route de la France pour réduire ses émissions de gaz à effet de serre et atteindre la neutralité en 2050. L'objectif, c'est de décarboner totalement la production d'énergie d'ici 30 ans. Ça passe par la sobriété et par le développement des énergies renouvelables. Cette préoccupation nous paraît à ce point contemporaine qu'elle nous ferait presque oublier que l'histoire est riche de procédés qui, s'ils avaient connu un succès durable, aurait pu changer notre paysage énergétique. Et puisque nous imaginons aujourd'hui le monde de demain, je vous propose de faire un grand bond en arrière. En 1820, par exemple, avec l'apparition du four géothermique, ce four utilise la vapeur des étangs pour en extraire l'acide borique nécessaire à la fabrication du verre et de la céramique. Il fera la fortune de son inventeur, l'ingénieur François de Larderel, sans que la géothermie parvienne à s'imposer durablement. Elle représente aujourd'hui moins d'1,5% de la production d'électricité mondiale. En 1873, un autre ingénieur, Louis Mekarski, met au point le tramway à air comprimé qui va équiper plusieurs réseaux de transport à la fin du 19e siècle jusqu'au début du 20e. L'air comprimé pour faire avancer des véhicules, le pétrole aura raison de cette idée réduite aujourd'hui à l'état de prototype. Ces procédés font l'objet d'une recension dans un livre que j'avais brièvement mentionné il y a quelques mois, Rétrofutur, une contre-histoire des innovations énergétiques aux éditions Buchet-Chastel. On peut être tenté de le lire comme un bestiaire d'idées farfelues, mais il faut se méfier de l'effet d'optique que le présent inflige au passé. L'histoire des hommes, comme celle de l'énergie, se raconte toujours du point de vue du vainqueur. Comme l'écrivent les historiens François Jarige et Alexis Vrignon dans leur ouvrage « Face à la puissance, une histoire des énergies alternatives à l'âge industriel, à la découverte », ce qui nous apparaît aujourd'hui comme une évidence n'avait rien d'inéluctable. Ainsi, le charbon puis le pétrole se sont imposés en marginalisant d'autres trajectoires possibles, d'autres systèmes énergétiques jugés par certains fiables, plus efficaces et moins dangereux, question de circonstances et de rapport de force. Prenons un autre exemple, le camion solaire à hydrogène. Je vous lis son histoire telle qu'elle est écrite dans Rétrofutur. En 1947, près d'Angers, deux collègues passent leur journée et leur nuit autour d'un camion. Ils aimeraient pouvoir l'utiliser pour transporter des sacs de farine entre le moulin et l'entrepôt. Leur problème ? Le carburant est hors de prix et difficile à trouver en cette période d'après-guerre. Ils vont donc mettre au point un système d'électrolyse pour extraire l'hydrogène de l'eau et faire avancer leur camion. Un système simple, robuste et durable qui va leur faire parcourir sans accident des milliers de kilomètres. Mais de cette belle histoire, il ne reste que quelques articles épars et des photos. Alors ce qui est intéressant avec tous ces exemples, c'est de voir que ces procédés fonctionnaient parfaitement, mais que faute de circonstances favorables, de choix politiques et d'investisseurs suffisants, faute aussi peut-être de volonté, ils ne se sont pas imposés plus largement, peut-être tout simplement parce qu'ils se suffisaient à eux-mêmes, comme le camion solaire à hydrogène. Alors quelles leçons en tirer ? Eh bien, au moment où la France s'engage à décarboner totalement son énergie d'ici 2050 en mettant l'accent sur les renouvelables, il y a sans doute quelques bonnes idées à récupérer dans le passé.